Métaphysique, Père Philippe, 8 mai 84, Saint Joseph.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame est très sainte.
Priez-vous.
Je continue un peu cette reprise que nous avions vue ensemble. On reprenait les grandes expériences des différentes parties de la philosophie pour voir comment il y a le passage de la connaissance de la philosophie pratique à la connaissance à la philosophie spéculative. Et je vous avais dit, c'est particulièrement important pour nous parce que comme Aristote face à Platon essaie de distinguer les deux, de même, face à Hegel, face à la dialectique hegelienne, nous devons comprendre que notre intelligence ne peut pas se développer uniformément, mais que notre intelligence se développe selon des paliers différents, selon une méthode analogique, donc dans la diversité, dans l'unité. Alors, cette diversité, cette unité, c'est ça que nous devons essayer de comprendre, comment de fait il y a cette diversité au niveau de nos connaissances immédiates. Et la philosophie pratique commence par l'immanence. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Ce sont des expériences internes, mais des expériences internes qui impliquent en même temps quelque chose qui touche une réalité autre que nous. Ce n'est pas uniquement l'expérience interne, c'est l'expérience interne de travail. J'ai conscience de travailler, normalement, sauf quand j'ai des rêves, j'ai conscience de travailler. Et le travail fait que, dans l'application même du travail, si ma conscience du travail va jusqu'au bout, je touche une réalité qui est autre que moi, la matière, le langage, quelque chose qui résiste, qui est autre, mais c'est quand même une expérience interne. Je ne pourrais pas savoir ce que c'est que le travail si je n'ai pas cette expérience interne. Quand je vois quelqu'un travailler, ce n'est pas suffisant. C'est très bien, mais je sais qu'il y a autre chose, il y a un effort intérieur parce que c'est une expérience vitale. Donc, qui se fait d'abord de l'intérieur. De même pour l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, l'amour est une expérience interne, c'est même l'expérience la plus interne qui soit, mais dans l'amour d'amitié, je touche l'autre. Oui. Un amour réaliste, spirituel, touche le bien. Donc, il y a au-delà de l'expérience externe, au-delà de l'expérience interne, l'expérience externe. De même dans la coopération. Je coopère, c'est une expérience interne, mais il y a le fait de travailler avec quelqu'un d'autre. Je ne lui marche pas sur les pieds. Tandis que si c'était uniquement interne, on pourrait aller selon son avis, on ne fait pas attention. Donc, la philosophie pratique implique cette immanence du vivant. Et ce sont les trois grandes immanences du vivant que je découvre. L'immanence de la connaissance du travail, au point de départ, qu'est l'inspiration. Il ne faut pas l'oublier. L'inspiration, c'est quand même une grande immanence de ma vie intellectuelle. L'immanence de l'amour et l'immanence de la coopération. Alors, il y a trois grands aspects d'immanence qui sont saisis à l'intérieur même de ce développement d'une philosophie pratique, à partir de ces trois grandes expériences. Je dois comprendre que je ne peux pas rester dans cette immanence. Cette immanence appelle autre chose. Je ne peux pas rester dans cette connaissance pratique, parce que cette connaissance pratique ne va pas jusqu'au bout des exigences de la connaissance. Cette connaissance pratique est très importante, elle est pour moi première, parce qu'elle est la plus immédiate, mais elle ne suffit pas. Vous voyez, alors c'est très important, je crois, pour nous de bien comprendre que c'est cette expérience immanente et cette philosophie pratique et première, parce qu'au fond, beaucoup de philosophie reste à ce niveau-là, un niveau descriptif d'une expérience interne, et ne vont pas plus loin. Alors, il faut essayer de comprendre la naissance, et ça je vous l'ai dit, il faut que vous arriviez à le découvrir vous-même, hein, la naissance de l'exigence d'une connaissance dite spéculative. Je ne vois pas comment on pourrait l'appeler, une connaissance pure, une connaissance voulue pour elle-même, une connaissance qui recherche la vérité. Parce qu'au fond, la vérité au sens fort n'est découverte que dans la connaissance spéculative. Dans la connaissance pratique, la vérité est découverte, mais à l'intérieur d'une immanence. Hein. Donc c'est une vérité qui est dont l'aspect subjectif, si vous voulez, est quand même très fort. Ça implique le point de vue de la subjectivité dans la vérité du côté artistique, hein, du côté affectif, du côté de la coopération. Alors il faut découvrir comment, de fait, la connaissance spéculative va naître à partir de cette expérience de l'autre dans son altérité. Parce que je crois que c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que la connaissance spéculative. C'est qu'on touche l'autre dans son altérité, c'est-à-dire en tant qu'il s'impose à moi comme une réalité autre que moi et que je veux saisir justement en tant qu'elle est autre que moi. Alors, je vous avais dit, c'est premièrement l'expérience de la matière. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et même sans faire de l'apologétique, ce serait très intéressant par rapport à la pensée marxiste. Parce que le marxisme a le sens de la praxis, et de montrer que la praxis, si on la regarde bien, devrait nous conduire vers ça. Faire un éclatement, un arrachement. Je sais que c'est très difficile, puisque la praxis est impliquée dans une dialectique. Or, dans une dialectique, il n'y a plus aucune expérience de l'autre comme autre. Il y a une expérience d'une immanence et une division dans l'immanence, et des oppositions dans l'immanence, mais pas en dehors. Mais c'est important de saisir que, pour nous, c'est la matière, en prenant matière au sens le plus vaste qui soit, ce qui est capable de transformer. C'est la matière en elle-même qui va me permettre de comprendre que je ne peux pas rester dans une philosophie pratique et que je dois dépasser cette philosophie pratique. La matière considérée en elle-même, c'est l'expérience de ce qui est mu. Ah, vous voyez, c'est intéressant à voir là, parce que vous avez les deux aspects de la matière. Vous considérez la matière en tant qu'elle est capable d'être transformée. Je crois que ça vaut la peine de bien regarder cela, parce que c'est un aspect qui est très important pour nous. Capacité d'être transformée. Transformée par l'homme. Pas transformé par Dieu, transformé par l'homme, point de vue philosophique. Capacité de transformer. Et l'expérience de la matière pour elle-même, ça c'est l'expérience de la matière pour l'homme. C'est en ce sens-là où il y a quelque chose de subjectif. Hein. Et c'est quand même intéressant de voir que la matière est d'abord saisie dans sa capacité de transformer par l'homme. Et puis l'autre expérience, c'est la matière en tant qu'elle est capable d'être modifié. C'est l'expérience du devenir. Et les deux devenirs La matière est source des deux devenirs. Un devenir qui vient de l'extérieur, et puis un devenir qui est propre à la matière elle-même. Et on comprend très bien. Si la matière n'était pas capable de devenir, elle ne serait pas capable d'être transformée. Il faut qu'elle soit source du devenir pour être capable de transformer. Si la matière était indivisible, si la matière était justement quelque chose d'absolument indivisible, elle ne serait pas capable de transformer. Donc, vous voyez bien le lien qui existe entre les deux. Cette capacité d'être transformée implique la capacité d'être modifiée. Et donc, l'expérience du devenir. L'expérience du devenir est donc sous-jacente au travail. À l'expérience du travail. Parce que le travail, c'est une expérience interne du devenir. Mais comment les deux vont s'impliquer, vont nous aider à comprendre. Le travail, c'est une expérience interne du devenir. Quand vous travaillez, vous avez l'expérience interne de la transformation. Non pas de vous, mais de la matière. Et puis, par la matière de vous. Vous vous transformez en travaillant. Vous vous ennoblissez en travaillant. Ou au contraire, vous vous détruisez en travaillant. Parce qu'on peut se détruire en travaillant. On peut très bien aller trop loin et se détruire, n'est-ce pas ? Ceux qui vont trop loin dans le travail se détruisent au bout d'un certain temps. Alors, ici, parce que justement, le travail implique le devenir. Il est lié au devenir. Et alors, les deux se tiennent. Oui, je crois que c'est important de bien souligner ça, de bien voir que la capacité d'être transformé, qui est l'aspect subjectif, implique nécessairement la capacité d'être modifié, c'est-à-dire d'être autre, de devenir autre successivement, donc du devenir. On a donc cette expérience du devenir qui me permet de connaître la matière et qui permet par le fait même de connaître la nature. La découverte de la nature ne se fait pas au niveau artistique. Au niveau artistique, je ne découvre pas la nature. Vous voyez, quand je dis que l'art, c'est ce qui vient coopérer avec la nature et transformer la nature, ça c'est une vision de sagesse. C'est pas direct. Quand vous transformez la matière, vous n'avez pas le sens de la nature, vous avez le sens de la matière. Et ça, alors je crois que c'est très important pour nous, parce que nous avons de la peine à comprendre ce que c'est que la nature aujourd'hui. Il s'agit de redonner le sens de la nature, et de le reprendre par quelque chose qui peut-être, vous voyez, on a pris la nature, on a toujours fait, selon la vision scolastique, philosophie de la nature en premier lieu. Alors on a une peine énorme à distinguer bien la philosophie de la nature de la physique moderne et tout ça. Parce qu'on donne en premier lieu la philosophie de la nature. Si vous commencez au point de vue philosophique, à montrer qu'il y a une philosophie de la matière, je ne dis pas de la nature, de la matière. On connaît l'univers, on connaît tout ce qui est autour de nous en tant qu'il est capable d'être transformé. Puis vous regardez cette matière, non plus en tant qu'elle est capable de transformer par l'homme, mais vous la regardez en elle-même. En elle-même, vous voyez que toute indétermination implique des déterminations. Pourquoi ? Parce que cette matière est capable d'être modifiée. Modifiée non pas par un autre, mais par elle-même. C'est l'expérience du devenir. Et donc, elle implique nécessairement des déterminations. C'est-à-dire une forme. Et donc, vous avez là la découverte de la nature comme forme. Tandis qu'ici, vous avez la découverte de la matière. Alors, ça aussi, ce serait intéressant de voir comment la matière, la nature, si elle est regardée uniquement d'un point de vue artistique, on perd le sens de la nature et on ne voit plus que la nature comme une matière à transformation. Autrement dit, après Nietzsche, parce que nous sommes dans le temps, après la philosophie nietzschéenne, la grande tentation, c'est de regarder que tout est dans le devenir. La politique du changement. Tout change. On dit, vraiment, ça fait bien. Dans un programme politique, tout change. On dira jamais aujourd'hui, tout demeure. Non, ben, on a complètement perdu le sens de la nature. Parce que, de fait, l'art est devenu premier et tend à devenir total. Alors, à ce moment-là, la nature se réduit à la matière. Et dans la mesure même où la nature se réduit à la matière, on perd le sens de la détermination de la nature. Et je crois que c'est un des aspects très net de notre monde aujourd'hui. C'est une philosophie qui, après Nietzsche, très influencée par Nietzsche, on est dans la créativité, comme vous l'avez dit. Ça va jusqu'au point de vue liturgique. On a écrit des livres qui ont été édités dans des maisons, de très bonnes maisons, et qui ont été édités sur la liturgie. Il faut la créativité. Au cœur de la liturgie, c'est la créativité. Au cœur de la liturgie avant, c'était la tradition. Vous voyez les deux extrêmes. Alors, il s'agit d'être au-dessus des deux extrêmes. Hein. Mais il faut comprendre cela. Il faut comprendre un tel au point de vue de philosophique. Philosophie, comment on arrive à mettre ce primat sur la transformation complète, continue, parce qu'on ne voit plus la nature que comme une matière à transformation. Et alors, on ne voit même plus l'œuvre, vous voyez, parce que normalement, la matière est transformée par une œuvre, mais l'œuvre se ramène uniquement à un moment dialectique. L'œuvre, c'est une transformation de la matière, mais en vue de l'autre transformation, et ainsi de suite, et indéfinie. Donc on est dans un mouvement perpétuel. Il y a une vision dialectique de la nature qui est une vision de la nature uniquement au point de vue de la matière. Capacité de transformer. Et plus c'est transformé, plus c'est transformable. On arrive à faire ce cercle constant. Vous voyez ? Alors, deuxième expérience. Hein. L'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, par l'expérience de la mort de l'ami, de mon ami ou de l'ami d'un autre, hein, l'expérience de la mort, c'est quand même important, cette expérience qui n'est pas directe, qui est médiatisée, mais qui est quelque chose qui montre comment l'amour d'amitié n'est pas identique au vivant. Que l'amour n'est pas la vie. Si l'amour était identique à la vie, mon ami ne mourrait jamais. C'est le désir qu'on a tous. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il meure. Ou bien qu'on meure ensemble, hein, en même temps. C'est. Alors ça va, si on meurt ensemble, grand voyage ensemble, c'est très bien. On verra bien, le tout c'est qu'on meurt ensemble. Non. Mais vous voyez, la mort vient montrer la brèche dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'est pas adéquat au vivant. Le vivant est comme la matière de l'amour d'amitié. Vous voyez ? Et comme, hein, comprenons bien, c'est quelque chose qui s'impose à moi, que je dois respecter, mais qui n'est pas mon amour d'amitié. L'ami n'est pas le vivant. L'ami implique le vivant, mais il n'est pas adéquat au vivant. Le vivant est antérieur à l'ami. Le vivant est d'ordre quelque chose de substantiel, et l'amour d'amitié est intentionnel. Ah. Alors, je fais cette expérience, hein, dès que je réfléchis sur l'amour d'amitié. Je vois que l'amour d'amitié est de l'ordre de l'intentionnalité. Et c'est pour ça qu'il faut le saisir. D'abord de l'intérieur. L'intentionnalité ne se saisit que de l'intérieur. Mais je pourrais déjà découvrir ici l'intentionnalité au niveau du facere. Le facere implique une intentionnalité, puisque la transformation de la matière se fait par la forme, et cette forme, elle est une forme qui provient de moi et qui fait l'œuvre d'art. Mais j'aime mieux regarder ça comme ça et regarder l'intentionnalité ici. L'intentionnalité est distincte du vivant. Le vivant substantiel, qui est l'autre. Puisque de fait, l'amour d'amitié est de l'ordre de l'intentionnalité et que n'est pas adéquat au vivant, il faut donc, au-delà de l'amour d'amitié, étudier ce que c'est que le vivant. Le vivant, vous comprenez bien ici, c'est la personne humaine. La personne humaine, c'est le vivant. Le vivant que j'étudie, dans la perspective de l'amour d'amitié, c'est pas le petit chien. Non. Le petit chien n'intéresse pas directement le philosophe. Il aime mieux l'envoyer, demander aux sciences biologiques de l'étudier. Ce qui intéresse le philosophe, c'est l'homme. Toujours l'homme. Donc, à travers l'amour d'amitié, de découvrir dans la personne humaine le vivant, qui est sous-jacent à l'amour d'amitié. J'aime un homme vivant. Mais ce n'est pas le vivant comme tel qui explique l'amour d'amitié. C'est quelque chose de plus. C'est que dans le vivant, il y a une capacité dans la personne même d'aimer. La capacité d'aimer est, plus profondément, il est mon bien personnel qui m'attire. Donc il y a une distance entre les deux, c'est ça qu'il faut saisir. Et la distance entre les deux, c'est le passage comme matière-nature, amour d'amitié vivant. L'amour d'amitié me fait comprendre qu'il y a une personne qui est relative à moi. Le vivant s'impose à moi comme ayant quelque chose qui me transcende, que je ne peux pas modifier. Je ne peux pas modifier. Dans l'amour d'amitié, il y a bien personne. La personne me transcende aussi. La personne, c'est l'autre. C'est évident, je respecte l'autre. Mais dans l'amour d'amitié, je le saisis toujours dans cette réciprocité d'amour. Je le saisis bien comme un absolu, mais toujours à l'intérieur de cette réciprocité. Donc à l'intérieur de ce halo d'intentionnalité. Tandis que le vivant, je dois le saisir pour lui-même. Je dois le saisir pour lui-même en tant qu'il s'impose à moi. D'où, seconde partie de la philosophie spéculative, la philosophie du vivant. Et entre deux, vous voyez, c'est pas la mort. C'est la mort qui montre l'hiatus entre les deux. Ça, c'est sûr. Comme on pourrait dire l'échec ici. L'échec me montre que dans la matière, il y a quelque chose que je n'arrive pas à dominer complètement. Il y a un échec, il y a une brisure, il y a une fêlure. Les limites, la philosophie des limites, hein, nous sommes très très portés vers ça aujourd'hui. La philosophie des limites, il faut qu'on soit attentif à ça. Il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans ce point de vue-là. La limite, l'échec, la matière qui m'échappe. Alors, cette matière qui m'échappe, eh bien, je dois regarder la nature. Et ici, dans l'amour d'amitié, la mort me montre que l'ami m'échappe. S'il était uniquement mon ami, dans tout ce qu'il est, et il ne m'échapperait jamais. Tandis qu'il m'échappe. Donc, la mort brise l'amour d'amitié. Et cette brisure de l'amour d'amitié me fait apparaître le vivant. Puisque la mort, c'est justement la destruction du vivant. C'est la destruction du vivant comme tel. Ce n'est pas une annihilation. Hein. La mort, c'est une philosophie, ce n'est pas l'être. Alors, troisième moment, troisième découverte, évident que c'est ce qui est le plus difficile, c'est de dépasser, d'arriver à découvrir la nécessité d'une philosophie première. Alors, je reparle de ma première expérience, on va voir si on peut le faire. C'est-à-dire, si je peux, par le point de vue de l'expérience de la coopération, l'expérience de la coopération qui me conduit au bien commun, qui est le bien immanent. Est-ce que cette expérience qui me conduit à la philosophie politique, à la philosophie de la communauté, la philosophie de la communauté aboutit à la communauté parfaite, qui est nécessairement la cité et qui est une politique internationale aujourd'hui. Hein. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas rester à la cité. La cité est relativisée par autre chose. Donc, une philosophie de la communauté. C'est pour ça que j'aime mieux dire philosophie de la communauté. Pour bien montrer que c'est une communauté qui, de plus en plus, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Les stoïciens disaient citoyens du monde. Par la philanthropie, par le point de vue de l'amour d'amitié, par le point de vue de la nature humaine, je suis lié à tous les hommes. Et donc, une philosophie de la communauté doit pouvoir regarder cette manière, cette possibilité de coopération à l'égard de tous les hommes. Donc, on comprend que la philosophie de la communauté, ça veut dire que si je dis philosophie politique, on risque toujours un tout petit peu de s'arrêter à la politique comme telle. La philosophie de la communauté me permet de mieux comprendre ce qui est à la racine de tout ce que représente un ordre social, un ordre politique. Philosophie de la communauté. Comment alors ? je peux saisir la limite de ce bien immanent et de ce bien commun. C'est en comparant justement les deux, en voyant qu'ici je suis nécessairement dans un ordre du conditionnement. La finalité n'est pas donnée dans le point de vue du bien commun. Le bien commun est bien fin, puisqu'il est bien, il a une certaine fin, mais c'est une fin immanente, c'est une fin effet, et c'est une fin en même temps, c'est un effet qui m'agrandit toujours. C'est pour ça que la coopération de l'homme avec l'homme va tendre vers un bien commun de plus en plus commun. Au point de départ d'une communauté, c'est la famille. Progressivement, c'est au-delà de la famille, et ça deviendra quelque chose d'international. Il n'y a pas moyen autrement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas moyen de mettre une limite. Alors, on pourra, à l'intérieur, comprendre que la loi du nombre joue énormément au point de vue communautaire, et on comprendra qu'une internationale absolue, sans aucun pays intermédiaire, risquerait de retomber sur le dos des hommes. Hein. Parce que ça, je crois que la loi du nombre joue énormément quand il s'agit de la communauté. On doit comprendre immédiatement qu'il y a une possibilité que la quantité, qui est la loi du nombre, enfouisse la qualité. Et plus c'est nombreux, plus la quantité l'emporte. Et donc plus le bien disparaît et l'aspect commun augmente. Vous voyez ? Peut-être ça qui fait comprendre une socialisation. La socialisation, c'est toujours la loi de la quantité qui l'emporte sur la qualité. Sûrement, il y a là quelque chose qui est important à saisir. Donc, il faut essayer de comprendre comment ce conditionnement peut être un conditionnement qui me conduit à une situation limite. Nous savons ce que c'est que la situation limite. La situation limite dont parle Jaspers, j'ai tout à fait le droit de l'employer, et c'est à l'intérieur de la communauté que je comprends la situation limite. C'est pas dans le bonheur, c'est pas dans l'ordre de l'amitié. C'est dans le point de vue proprement du bien commun. Alors, que représente cette situation limite? La situation limite, c'est justement quand, de fait, la quantité l'emporte sur la qualité. Toujours ça, la situation limite. C'est quand le conditionnement l'emporte sur la finalité. J'ai toujours donné le petit exemple qui va toujours se rappeler pour le point de vue de la situation limite. Hein, c'est l'avalanche. L'avalanche, n'en faites pas l'expérience, c'est pas la peine, mais chaque année, on en parle. Hein. La neige tombe, c'est pas grand-chose, c'est même beau à voir, n'est-ce pas? La neige tombe, quand la neige tombe en tourbillon, c'est déjà un peu plus, ça vous arrête au point de vue de la circulation, et quand vous êtes pris alors complètement, vous êtes obligé de vous arrêter. Et quand c'est l'avalanche, situation limite. Votre oxygène risque de disparaître. Situation limite. Alors, dans la situation limite, nous fait comprendre comment le bien disparaît en face de la quantité. Le bien est immergé par la quantité. Le conditionnement, quand il l'emporte, et le conditionnement l'emporte toujours, le conditionnement l'emporte toujours par le point de vue du phénomène du monde et de la vitesse. La vitesse et le nombre, c'est le point de vue de la quantité qui s'additionne et qui fait qu'à ce moment-là, on risque toujours de faire qu'on perd le sens de la finalité. Vous perdez la direction quand vous allez trop vite. Hein? Bien évident. Alors à ce moment-là, vous n'êtes plus très... Vous ne dirigez plus. Vous perdez la direction. La direction, c'est le sens de la finalité. Et vous perdez, vous êtes pris. La vitesse. Et la quantité. Il y a ce phénomène particulier, une coopération. Elle est toujours finalisée par le bien commun. Et le bien commun peut être enfoui par le fait. Alors, à ce moment-là, on doit comprendre le problème exactement comme la mort par rapport à l'amour d'amitié. Il y a quelque chose qui s'impose à moi. quelque chose dont je ne suis pas maître. Le conditionnement, j'en suis maître du conditionnement. Mais il peut y avoir une situation limite du conditionnement qui montre la limite dans laquelle je me trouve. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui va trop loin. Alors, c'est à partir de là que je crois que se pose le problème radical de ce qui est. La réalité existante. Je ne peux pas tout conditionner. Le conditionnement peut aller très loin, et dans le monde d'aujourd'hui, il va très très loin, parce qu'on croit qu'on transforme l'univers d'une manière telle que même la matière disparaît. On croit qu'on pourra manipuler l'individu autant que... et ainsi de suite. Eh bien, il y a quelque chose qui résiste au conditionnement, quelque chose qui arrête le conditionnement, et qui me pose le problème de ce que représente le bien. Le problème de ce qui est et du bien. Le bien dans la coopération communautaire, est un bien immanent que l'homme fait et en même temps qui s'impose à l'homme. Dans le point de vue de l'amour d'amitié, le bien apparaît transcendant la personne humaine. Et alors je me pose la question, y a-t-il un bien qui dépasse le bien commun et qui dépasse le bien personnel? Vous avez l'opposition entre les deux. C'est pas le point de vue du bien. Je pense que c'est pas le point de vue du bien qu'on rejoint le point de vue du bien. Vous avez le bien personnel, le bien commun. Alors, le bien personnel, il me dépasse, c'est la personne humaine. Mais je vois que la mort arrête. Le bien commun, je vois que le bien commun peut être entièrement submergé par le point de vue du conditionnement. Donc, je vois les deux limites de ce bien. Alors, y a-t-il un bien qui s'impose à moi d'une manière absolue? Autrement dit, y a-t-il un bien transcendant? Et la question de ce bien transcendant va me ramener tout simplement à la réalité en tant qu'elle existe. C'est-à-dire, en tant que je ne peux pas tout changer. Le conditionnement ne peut pas être absolu. Ou le conditionnement est-il absolu? Puis-je tout changer? Si je pouvais tout changer, le bien commun serait l'absolu. Alors, je me pose la question, y a-t-il un bien transcendant? Je crois que c'est la troisième manière de dépasser la connaissance pratique. C'est du côté du conditionnement pris dans son absolu, donc situation limite. Est-ce que la situation limite est une situation à laquelle nécessairement l'humanité aboutit? C'est la fameuse question au point de vue du marxisme. Et ce qui fait qu'à l'intérieur même du marxisme, il y a une dualité. Est-ce que la matière va l'emporter? Il y a toute une position de la dialectique marxiste qui dit que nécessairement on doit réaboutir à la matière. Donc l'homme est lui-même dominé par la matière, situation limite. Ou est-ce qu'au contraire, on va dire que le travail de l'homme va dominer de plus en plus la matière? Et on ne peut pas résoudre le problème à l'intérieur même du marxisme. C'est absolument impossible, à cause du prisme de la matière. Alors vous ne pouvez pas le résoudre. Il faut donc nécessairement arriver à cette position de dire, y a-t-il dans la coopération poussée à l'extrême, peut aboutir à une situation limite, quand vous ne voyez plus dans la coopération que le conditionnement, qui est de plus en plus grand dans le nombre et la vitesse. Donc vous aboutissez à une situation limite. Dans cette situation limite, vous devez vous poser la question, est-ce que cette situation limite, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que l'homme doit être enfoui par le nombre? Est-ce que l'homme doit tomber nécessairement dans un socialisme absolu? L'humanité doit-elle absorber l'homme? Question, l'humanité doit-elle absorber l'homme? Est-ce que l'homme est au service de l'humanité? Ou est-ce que l'homme a-t-il une tête de plus dans sa propre personnalité? Alors vous voyez que vous touchez les deux problèmes, le problème du bien personnel et le problème du bien commun. Et vous êtes obligé de mettre l'un en face de l'autre. Est-ce que c'est le bien commun qui l'emporte sur le bien personnel, ou est-ce que c'est le bien personnel qui l'emporte sur le bien commun? Autrement dit, le bien commun est plus divin que le bien individuel. Est-ce que le bien commun est plus divin que le bien personnel? Et est-ce que vous devez aboutir nécessairement à un bien commun absolu? Donc c'est à l'intérieur même du bien commun que je me pose la question, existe-t-il un bien transcendant qui dépasse complètement le bien commun? Et le bien personnel ne me permet pas de donner la solution. Il faut donc aller beaucoup plus loin. L'amour d'amitié ne me permet pas de donner la solution. Il faut aller plus loin. Il faut donc redécouvrir s'il existe un bien transcendant, un bien au-delà. Et ce bien transcendant est-il à la racine de tout, c'est-à-dire la réalité en tant qu'elle existe, que je ne peux pas transformer. L'au-delà du devenir. Ce qui est, c'est l'au-delà du devenir. Le devenir était saisi par le point de vue du fat chéré et par le point de vue de la philosophie de la nature. Dans l'amour d'amitié, je suis au-delà du devenir, puisque l'amour est un au-delà du devenir et met en pleine lumière le point de vue de la finalité et du bien personnel. Mais lorsque je reprends le point de vue du conditionnement humain et la coopération, je dois me poser la question, existe-t-il quelque chose qui est au-delà du devenir? Le conditionnement est dans le devenir. Donc, et y a-t-il quelque chose qui dépasse complètement le bien commun dans l'ordre du bien et dans l'ordre de l'être? J'arrive nécessairement à me poser la question d'une philosophie première, qu'est-ce que c'est que ce qui est, qu'est-ce que c'est que le bien? Et c'est très curieux que si vous êtes attentif à la position d'Aristote de la philosophie première, vous voyez tout de suite que c'est l'être et le bien. Ça, c'est là où l'éthique et la politique nous aident à nous poser le problème métaphysique. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de la politique sans me poser le problème métaphysique. Parce que le bien commun pourrait être poussé jusqu'au bout et arriver à en faire un bien commun absolu. Position du socialisme. Le socialisme poussé à l'extrême. Un socialisme pur, au nom du bien commun, disparaissait. Au nom du bien commun, disparaissait. Et ça va très loin, vous voyez, parce que ça montre la politique, ça montre ce que Platon avait très bien saisi, que l'unité est un plus grand absolu que l'être. Que l'un est au-delà de l'être. C'est encore une autre manière de le voir. Si l'un est au-delà de l'être, le bien commun est plus que tout. Au nom du bien commun, sacrifiez-vous. Vous voyez le raisonnement pour l'école libre, c'est très net. Hein, raisonnement pour l'école libre, il faut l'école qui soit la même pour tous. Ça maintient l'unité. Vous ne regardez plus le bien de la personne, vous regardez le bien commun, poussé à l'extrême, comme un absolu. Alors si le bien commun est un bien absolu, il faut l'uniformité, il faut que tout le monde puisse être plongé dans la même marmite, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on tous, c'est l'unité qui prime. Alors c'est l'unité qui est première, au-delà de l'être, au-delà du bien. Donc on retrouve d'une autre manière cela. Et c'est toujours la question du bien commun. Le bien commun est-il plus divin? Vous savez, cette parole est très très forte d'Aristote. Le bien commun est-il plus divin que le bien individuel, que le bien personnel? Et je crois que c'est cette question qui m'oblige de passer à une nouvelle philosophie, à un nouvel aspect de la philosophie de ce qui est. Puisque je ne peux rejoindre le bien que par l'être. La seule intelligibilité que je peux avoir du bien, c'est par l'être. Je ne peux dépasser le bien que par l'être. Vous voyez, là, je ne dépasse pas le bien. Ici non plus, je ne dépasse pas le bien. Or, pour essayer de comprendre si le bien personnel et le bien commun sont dans telle ou telle relation, il faut dépasser le bien. Et donc, il faut découvrir l'être. Vous voyez la manière dont je peux le poser, le problème. C'est important parce que je crois que c'est, pour notre pensée d'aujourd'hui, c'est important cela. je ne peux pas dépasser le bien par le devenir. C'est bien évident. Le bien, je l'aime. Je ne peux pas dépasser le bien dans l'éthique, dans l'expérience de l'amour d'amitié, puisque c'est le bien qui est ma fin. Je ne peux pas dépasser le bien dans le bien commun. Or, j'ai le bien commun et le bien personnel, et je me pose la question par rapport aux deux. Qu'est-ce qui est premier? Quel est lequel va dominer l'autre? Pour pouvoir donner la solution de cela, il faut dépasser le bien. Qu'est-ce qui me permet d'avoir l'intelligibilité du bien, ce qui est. Parce que le bien, avant d'être bien, est. Mais comment je suis conduit nécessairement à une philosophie de l'être. Donc il y a plusieurs voies d'accès, mais au fond, la voie d'accès, en définitive, c'est ça. C'est le dépassement du bien. C'est curieux, vous voyez, parce que ça fait comprendre le cheminement de la connaissance spéculative. C'est ça qui m'intéresse. Le cheminement de la connaissance spéculative. Le cheminement de la connaissance spéculative, c'est découvrir le fondement du devenir, la nature. C'est découvrir le fondement de l'amour, le bien. C'est découvrir le fondement de la coopération, le bien commun. C'est de découvrir le fondement du bien commun, comme du bien personnel, c'est l'être. Alors, je suis conduit à la distinction du devenir et de l'être par le bien. Et ce serait peut-être un des aspects qu'il faudrait développer. On ne l'a jamais vu, ça. C'est pour ça que je reprends ce cheminement, parce que je crois qu'il faut toujours creuser davantage. Il faut comprendre. Voyez, autrement dit, la question se pose de cette manière-là. Ce qui est mu me conduit à la phusis, à la nature. La nature, dans sa dualité, forme matière. Ce qui est mu est dépassé par le point de vue du bien. Le bien m'apparaît tout de suite dans sa dualité, bien personnel, bien commun. C'est-à-dire de forme du bien. Et le bien, je le saisis par un amour, je le saisis dans une coopération. La coopération impliquant un amour, et n'impliquant pas l'amour dans toute sa force. Impliquant un amour avec efficacité. Et à partir du bien, je me pose la question de ce qui est. Ce qui est vu du point de vue de l'être. Pour dépasser la dualité bien personnel et bien commun. Pour dépasser amour et coopération. Je me pose la question de ce qui est. Ce qui est va me donner l'intelligibilité du bien. Et en me donnant l'intelligibilité du bien, va me permettre de dépasser. Je ne peux, vous voyez, c'est ça qu'il faut saisir. Je ne peux dépasser le bien que par l'être. Dépasser, au point de vue de la connaissance, analyser, si vous voulez. Je ne peux analyser le bien que par l'être. Alors, il s'agit d'analyser. Qu'est-ce qui est premier, le bien personnel ou le bien commun? Le bien commun peut devenir quelque chose de très absolu, puisque ça peut impliquer toute l'humanité, un bien international. Toujours l'international qui fait sauter la personne. Au nom de l'international, je fais sauter la personne. Au nom du bien commun qui devient total, qui devient le tout. Toute la philosophie du tout, la philosophie hegelienne qui est la philosophie du tout. Et donc le tout dépasse la personne. C'est bien évident, le tout dépasse la personne. Le tout est divin. Donc il fait dépasser la personne. Et donc le bien commun, quand il arrive à unifier tout, arrive à dépasser la personne. La personne est complètement relativisée. Et donc, je suis dans un socialisme absolu. Je ne peux répondre à cela que si j'analyse le bien. Pas autrement. Oui. Quand il n'y a plus de métaphysique, on n'a plus qu'à être socialiste. Ce sera un article merveilleux. Quand il n'y a plus de métaphysique, on n'a plus qu'à être socialiste. Parce que le bien commun, socialiste au sens philosophique, hein, pas politique, au sens philosophique, c'est-à-dire à considérer que le bien commun, dans ce qu'il a de plus total, c'est divin. C'est là où l'image de Dieu est la plus parfaite. C'est ce soin du divin. Alors, je ne peux dépasser ça que si j'analyse le bien. Et que je vois que le bien ne peut être analysé que par l'être. Alors, à ce moment-là, je peux comprendre qu'il y a dans la personne humaine l'esprit, puisque c'est la découverte de l'être qui permet de découvrir l'esprit, et que l'esprit dépasse le bien commun.